Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Bouteflika, pas de ruse, le cri des manifestants à nouveau dans la rue par milliers ce matin en Algérie. Ils se méfient des annonces du pouvoir. Certes, le président renonce à un cinquième mandat et promet une nouvelle constitution, mais quand ? En France, Emmanuel Macron salue la décision d'Abdelaziz Bouteflika, mais la transition, ajoute-t-il, ne doit pas durer trop longtemps. Marine Le Pen demande la suspension des visas aux Algériens pour prévenir un afflux migratoire. Alors, ruse ou révolution en Algérie ? Nous poserons la question à l'un de nos meilleurs spécialistes du Maghreb, Kader Abderrahim, qui est notre invité, lui qui est maître de conférence à Sciences Po à Paris. Vers un rejet du Brexit, version Theresa May, nouveau vote crucial à Londres ce soir, elle n'a pas obtenu de vraies nouvelles concessions de l'Europe. C'est ce qu'estime le conseiller juridique du gouvernement, qui est très influent. La livre sterling décroche en cette mi-journée. Défenseur des droits contre gouvernement, le ton se durcit sur France Inter ce matin. Jacques Toubon appelle une nouvelle fois à l'abandon des LBD, ces armes de défense jugées dangereuses. Le débat est clos, répond le ministre de l'Intérieur sèchement.
Ce Toubon, aujourd'hui, mène un combat manifestement plus personnel que collectif, peut-être pour faire oublier son propre engagement politique.
Christophe Castaner, Jacques Toubon, nous entendrons l'échange plus longuement. Dans l'actualité encore, la chronique santé de Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alerte sur notre sommeil.
Et oui, les Français sont passés sous la barre des 7h, 6h42 en moyenne par nuit, et ça ne suffit pas pour récupérer.
On détaillera tout cela et vous nous direz comment essayer de remonter la pente. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, quelle est la tendance ?
Eh bien la pluie arrive sur l'ouest Bretagne et va progressivement concerner le quart nord-ouest cet après-midi, gagnant jusqu'au Poitou-Charentes, à l'Île-de-France et aux Ardennes avant la fin de journée. Avant l'arrivée de ces pluies qui seront localement fortes et accompagnées de vents forts, les nuages vont se multiplier. Temps plus lumineux, des Pyrénées à la Lorraine jusqu'aux frontières de l'Est avec un soleil prédominant et un ciel voilé. Et puis température comprise entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 21 degrés plus au sud.
À Madrid, depuis hier, un nouveau phénomène météo, le Zizou de retour à la tête de l'équipe du Real. Nous irons au centre d'entraînement du Real Madrid. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Sont-ils en train de gagner ou d'être dupés ? Les jeunes manifestants algériens se méfient au lendemain des annonces d'Abdelaziz Bouteflika. Il ne se présente pas pour un cinquième mandat. Une nouvelle constitution sera adoptée en Algérie. En attendant, l'élection présidentielle du 18 avril est reportée. À quand ? Ça n'est pas précisé et c'est bien le problème. Alors les manifestants redescendent dans la rue. À Alger, Leïla Berato.
Plusieurs milliers d'étudiants défilent depuis ce matin dans les rues de la capitale. La manifestation était prévue et devait contester les vacances imposées au dernier moment par le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais dans la foule, Sabine, 19 ans, a adapté sa pancarte aux dernières informations.
Ce n'est pas un match de football, non, prolongation. Parce qu'on ne veut pas que le président prolonge le quatrième mandat. Maintenant, on a demandé qu'il parte. Et là, il veut prolonger encore une année. Et c'est contre nos demandes. C'est bon, il peut plus. C'est bon.
Les étudiants, mais aussi des lycéens, se regroupent sur les marches de la Grande Poste où ils se mettent à scander « Dégage ». Souria a imprimé une pancarte sur une feuille A4 et elle affirme qu'elle continuera à manifester.
La première fois qu'on est sorti, contre le président, oui. Mais maintenant, on est contre le système. On sait que le président est parti, mais le système est toujours en place. Ils vont profiter de la période pour continuer leur clan et leur affaire et faire tout ce qu'ils ont préparé d'avant.
En fin de matinée, les étudiants ont été rejoints par des passants, mais aussi par des habitants du quartier qui considèrent également que l'annonce du président n'est pas satisfaisante.
Leïla Berato, correspondante des RFI en Algérie, et ce reportage réalisé ce matin, évidemment, pour France Inter. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Universitaire, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, maître de conférence à Sciences Po Paris. Ils ont raison de se méfier, les jeunes manifestants algériens ?
Je crois, oui. Je crois que la prudence est de mise et la vigilance également. Qu'est-ce que ça signifie de dire « je ne ferai pas de cinquième mandat » mais en même temps cherchant à prolonger le quatrième ? Donc il faut que les choses soient claires. C'est plus le temps du louvoiement, c'est le temps de la clarté, à la fois pour l'avenir de l'Algérie et pour sa stabilité. Et pour ses partenaires, il faut envoyer des messages clairs aujourd'hui. Je crois que le pays ne peut pas se permettre de continuer à avancer à l'aveuglette alors qu'il a été littéralement, depuis près de 20 ans, confisqué par un clan.
Qu'est-ce que vous redoutez ? Qu'au fond, cette présidentielle, à force d'être reportée, n'ait jamais vraiment lieu, qu'on noie la contestation de cette manière-là ?
De mon point de vue, c'est moins la question de l'élection présidentielle que celle du processus démocratique. Est-ce qu'il y a une volonté réelle de lancer un processus démocratique qui permettrait à ce pays d'aller vers un état de droit réel et non plus formel? Je crois que c'est beaucoup plus important que de savoir qu'à quelle date pourrait venir l'élection présidentielle.
Alors à ce propos, je voudrais vous proposer d'écouter celui qui est désormais vice-premier ministre en Algérie, c'est Ramtane Lamamra. Il était l'invité de nos confrères de RFI et évidemment il défend le processus en cours.
Le président a annoncé un certain nombre d'orientations de nature stratégique. D'abord, c'est la conférence nationale indépendante, inclusive et indépendante, qui adoptera la constitution. Elle également fixera souverainement la date de l'élection présidentielle. Il appartient maintenant aux femmes, aux hommes et surtout aux jeunes de ce pays de se hisser au niveau, au diapason de cette responsabilité historique. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je crois qu'ensemble, nous bâtirons cet avenir meilleur pour le peuple algérien.
Kader Abderrahim, promesse de ne pas se représenter, changement de Premier ministre, nouvelle constitution qui sera soumise à référendum, tout cela n'est pas le signe d'une vraie volonté de changement ?
Oui, mais elle ne peut pas être conduite par l'actuel président qui a conduit le pays dans l'impasse institutionnelle et politique. Et puis je viens d'entendre le nouveau ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, une fonction qui n'existait pas dans la Constitution. Donc là aussi, on continue à jouer avec la loi, avec les institutions, avec un formalisme qui jusque-là était plus ou moins respecté et qui aujourd'hui a volé en éclats. Donc il continue à faire de petits arrangements entre amis pour préserver de petits intérêts, alors que l'essentiel est oublié. Je crois qu'encore une fois, la vigilance est de mise. Après, il faut voir quels seront les outils qui vont permettre réellement cette conférence nationale et savoir si elle sera réellement indépendante du pouvoir politique.
Alors, parmi les informations du matin, il y a la nomination de Lakhdar Brahimi, qui est un diplomate chevronné, pour diriger ces débats. Est-ce que ça, c'est une garantie, selon vous ?
C'est pareil. Bon, on a dans la rue, dans tout le pays, dans toute l'Algérie, la mobilisation de tout un peuple, par millions de personnes. Majoritairement très jeune. Lakhdar Brahimi est un homme éminemment respectable qui a une carrière internationale que tout le monde reconnaît et que je ne conteste pas. Est-ce qu'il est la personne idoine pour incarner ce changement ? Première question. Deuxièmement, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que ce dont l'Algérie a cruellement besoin, c'est d'un Gorbatchev, c'est d'un homme qui soit capable à la fois de rassurer le régime, mais qui soit en même temps accepté par la population pour sa bonne volonté, pour sa volonté et pour sa capacité à résister aux pressions du régime.
Il existe le Gorbatchev ?
Eh bien écoutez, en tout cas, pour le moment, on ne nous a pas sorti de Gorbatchev. Hein. Ouais. On nous a sorti que des hommes du système, même si là aussi, je ne suis pas naïf, je pense que cette transition ne peut être conduite que de l'intérieur du système, mais pour autant, à l'intérieur de ce système, il y a des hommes qui sont plus présentables que d'autres.
Tout de même, Kader Abderrahim, on mesurera l'ampleur et la sincérité du recul d'hier soir, là, dans les jours, les semaines à venir. Mais recul, il y a eu. Qu'est-ce qu'il a provoqué de votre point de vue ? C'est les manifestations en masse, leur caractère pacifique. C'est l'entourage de Bouteflika qui commençait à céder. Le frère qui a décidé lui aussi de céder.
Je crois que c'est tout ça à la fois. C'est d'abord la mobilisation à laquelle il faut rendre hommage du peuple algérien. Pacifique, comme vous l'avez souligné, des éco-manifestations. Et puis ça commence à craquer de toutes parts. Le bateau prend l'eau, que ce soit le FLN, que ce soit les oligarques du patronat, que ce soit toutes ces organisations satellites du FLN, qui est une organisation très très stalinienne.
Front Libération Nationale, le parti de l'indépendance.
Absolument. Mmh. Donc tout cela prend l'eau de toutes parts et certains commencent à se dire comment préserver au mieux mes intérêts. Et donc certains ont quitté le bateau pour jouer le coup d'après, comme on dit aux échecs. Et je crois que c'est tout cela qui a conduit le président et son entourage à tenter encore une fois un énième coup d'échec. Mais cette fois, je crois que ça ne marchera pas. Et je trouve que dans le fond, c'est quand même assez inquiétant. Parce que si ça génère de la frustration, notamment parmi les plus jeunes, ça peut dégénérer. Et c'est quand même une inquiétude et une préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui.
Est-ce que les islamistes sont en embuscade ou c'est une crainte que vous n'avez pas actuellement ?
Pas du tout. Pas du tout. Ni aujourd'hui, ni hier. Je pense que les islamistes qui ont constitué sur le plan politique une force extrêmement importante dans les années 90 ont été intégrés de manière très habile par Bouteflika dans le jeu politique, notamment à partir de 2002-2003 dans ce qu'on avait appelé l'alliance présidentielle, qu'ils ont été corrompus eux-mêmes et que donc ils ont perdu leur crédibilité. Donc ils ne représentent plus ni une menace politique, ni une alternative politique.
Alors les réactions françaises, c'est depuis l'Afrique, puisqu'il est à Djibouti en ce moment, qu'Emmanuel Macron a commenté cette actualité en Algérie. Écoutez-le.
Je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer, dans un délai raisonnable, la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect.
Nous sommes toujours avec l'universitaire Kader Abderrahim. Deux questions à propos de la France, Kader Abderrahim. Est-ce que petit 1, depuis le début de la contestation, Paris a trouvé la bonne distance? Et quel rôle peut jouer, ou pas d'ailleurs, la France désormais?
C'est toujours extrêmement compliqué. On est forcément dans le grand écart en permanence. Donc c'est toujours trop ou pas assez qu'on parle et on est très vite accusé d'ingérence, qu'on se taise et on est au mieux accusé de complaisance, voire de complicité. C'est une situation extrêmement compliquée. En réalité, je crois que tant que de part et d'autre de la Méditerranée, on n'aura pas tissé des liens sur une base sans être cynique, qui est celle des intérêts, on continuera à trimballer, pour parler très trivialement, la culpabilité de la guerre d'Algérie. Et donc chacun est contraint par un discours diplomatique dans lequel on entend tous ce que l'on veut entendre.
Il y a des pays qui auront une influence forcément dans les jours, les semaines à venir sur le cours des événements en Algérie.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai relevé qu'après la déclaration du porte-parole du secrétaire d'État américain il y a 10 jours à Washington, le ton du secrétaire du chef d'état-major des armées, Gaid Salah, a été déjà beaucoup plus pondéré. Et depuis, toutes ces déclarations sont beaucoup plus mesurées, alors qu'avant cela, les déclarations étaient quand même presque menaçantes à l'égard des populations et des manifestants. Donc oui, évidemment, c'est pas du tout les mêmes rôles, ni la même perception qu'on peut avoir selon que l'on soit français ou américain.
Globalement, la classe politique salue les annonces faites hier par Abdelaziz Bouteflika. Il y a la petite note Le Pen qui demande que le gouvernement suspende l'octroi de visas aux Algériens pour prévenir un éventuel afflux migratoire. C'est une menace, entre guillemets, auquel vous apportez un crédit?
Non, enfin bon, je ne sais pas si je peux me permettre de commenter cela, mais ça c'est un épouvantail qu'on agite très régulièrement. On nous avait déjà fait le coup à la fin des années 80, en octobre 88, quand il y a eu déjà des grandes émeutes de la jeunesse. Et puis dans les années 90, cette terrible guerre fratricide, on nous avait dit afflux, et puis en fait non, on n'a pas vu. Il y a des migrations, mais elles restent dans un volant qui est tout à fait absorbable par un pays comme la France.
Dernière question, Kader Abderrahim. Au fond, est-ce que au moment où on se parle, après ces annonces d'Abdelaziz Bouteflika, vous êtes plutôt optimiste pour l'Algérie ou plutôt pessimiste?
J'ai toujours été modérément optimiste et surtout très lucide. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le processus enclenché qui doit malgré tout se renforcer peut tout à fait capoter. Le régime conserve quand même une capacité de réaction et de résilience très importante. Il a les moyens de l'État. Donc il peut faire beaucoup de choses pour enrayer, guider, orienter, contrôler ce processus. Donc je reste lucide et plutôt optimiste aujourd'hui, comme je l'étais la semaine dernière. Mais là aussi, je crois que c'est les Algériens qui ont leur destin en main. Pour résumer, là aussi, je dirais que 1962 a été la date de l'indépendance de l'Algérie et l'histoire retiendra que février-mars 2019 a été la date de la libération du peuple algérien.
Et ce février-mars 2019, on en parle évidemment à nouveau ce soir sur France Inter, notamment dans l'émission de Fabienne Sintès, entre 18h15 et 19h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu en studio, Kader Abderrahim. L'actualité internationale est très dense en ce mois de mars. La semaine de tous les votes a commencé concernant le Brexit. Les députés britanniques vont-ils au dernier moment dire oui au Brexit version Theresa May? Ce serait une grosse surprise. Pour tout dire, on n'en prend pas le chemin. Le vote a lieu dans la soirée. La première ministre dit avoir obtenu de nouvelles concessions des Européens hier soir à Strasbourg, notamment sur la question de l'Irlande du Nord. Ça n'est pas l'avis du conseiller juridique du gouvernement. Son avis était très attendu. Il vient de le donner il y a quelques minutes. Pas de vraies concessions. La livre sterling, du coup, perd de la valeur face à l'euro et face au dollar. Si le Parlement dit une fois de plus non à Theresa May, deux autres votes cruciaux auront lieu demain ou après-demain, en principe, oui ou non à un Brexit sans accord avec l'Europe et oui ou non à un report du Brexit. La date théorique, c'est à la fin du mois.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Le débat a été lancé, relancé sur France Inter ce matin. Celui sur les lanceurs de balles de défense, ces armes qui tirent des balles en caoutchouc, entre guillemets, mais qui sont accusées de grièvement blesser des manifestants. Et bien sur France Inter, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a une fois de plus demandé que les forces de l'ordre arrêtent d'utiliser ces armes.
Il y a des années que nous disons qu'il y a des problèmes à l'égard du respect des droits fondamentaux dans la manière dont se fait le maintien de l'ordre dans notre pays. Nous avons demandé, il y a déjà 4 ans, l'interdiction du flashball Super Pro. Nous avons demandé dans notre rapport de janvier 2018 que l'on s'interroge sur l'utilisation des nouveaux lanceurs de balles de défense et nous avons mis en lumière la dangerosité de ces armes de force intermédiaire, comme nous l'avions fait, je le rappelle, après le drame de Sivens, où le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, avait retiré les grenades offensives. Il y a là un sujet qui doit faire l'objet d'un débat serein dans notre pays. L'Allemagne a, il y a 30 ans, modifié ses méthodes de maintien de l'ordre. Et Dieu sait si l'Allemagne a connu des manifestations. Dieu sait si l'Allemagne a connu du terrorisme. C'est ce que fait l'Angleterre aussi depuis longtemps.
Et le défenseur des droits dénonce encore un recul des libertés fondamentales, une logique sécuritaire croissante en France, logique accrue avec les manifestations des Gilets jaunes. La réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au micro France Inter d'Emmanuel Leclerc.
J'ai en mémoire que M. Toubon a été ministre, ministre de la Justice d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait même se rappeler aussi de la façon dont il était ministre. M. Toubon, aujourd'hui, mène un combat manifestement plus personnel que collectif, peut-être pour faire oublier son propre engagement politique. Nous avons déjà annoncé que nous voulions revoir en profondeur la doctrine d'ordre public. Tous les sujets seront à l'ordre du jour. Est-ce que ces derniers jours, la question du LBD sur le terrain a été posée ? La réponse est non. C'est ça aussi la réalité. Oui, le 1er décembre, le 7 décembre, nos forces ont utilisé des LBD. Mais souvenez-vous de la violence. Et donc, n'inversons pas la responsabilité. Les fauteurs de troubles, ceux qui attaquent, ne sont pas les forces de l'ordre. Et j'aimerais que le défenseur des droits ne néglige jamais les droits de nos forces de l'ordre.
Voilà pour Christophe Castaner ce matin au micro d'Emmanuel Leclerc. La stratégie de maintien de l'ordre du gouvernement en débat à nouveau avec le vote de la loi anti-casseurs qui devrait être adoptée par le Parlement. Mais l'affaire devrait se prolonger au Conseil constitutionnel. En fin de semaine, ce sont les jeunes militants de la lutte contre le changement climatique qui se feront entendre. Appel à manifester comme chaque vendredi désormais pour appeler les États, car c'est un mouvement international à faire plus contre le changement climatique. Au fil des semaines, en France, le mouvement gagne les lycées. Eh bien, qu'à cela ne tienne, a répondu hier le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, organisons vendredi des débats dans les lycées plutôt que des manifs. Alors cela peut sonner comme un geste d'ouverture ou bien comme une volonté de récupérer, voire de mettre un couvercle sur la contestation. À ce sujet, écoutez Alexandra, elle a 25 ans, elle est étudiante en droit. Elle manifeste depuis le début du mouvement Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Ces débats dans les lycées, elle ne les sent pas.
Monsieur Blanquer, il nous propose un débat improvisé. D'ailleurs, le jour même de la grève mondiale pour le climat, qui va rassembler des millions de jeunes à travers le monde. Donc, au lieu d'encourager la jeunesse qui agit aujourd'hui avec une grande maturité, qui est forcée à le faire face à la crise écologique, et renvoie les jeunes à rester sagement entre eux pour discuter une fois pendant 2 heures, j'ai même du mal à imaginer que le ministre puisse s'organiser d'ici vendredi pour vraiment donner un vrai support pédagogique, que ce soit aux professeurs ou aux élèves d'ici vendredi. C'est pas un débat une fois qui va changer quoi que ce soit. Pour nous, c'est une tentative d'étouffer les contestations qui vont s'exprimer dans la rue ce vendredi. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut une véritable éducation à l'écologie et aux problématiques climatiques. Ça demande un peu plus de préparation que d'annoncer une semaine à l'avance qui va mettre 2 heures de discussion au sein des lycées.
À propos recueilli par Thibault Lefebvre, cet énorme coup de frayeur pour un groupe d'étudiants de l'IUT de Sceaux en banlieue parisienne. Ils revenaient du ski, leur autocar a pris feu tout d'un coup sur l'autoroute au petit matin. C'était dimanche, la plupart des passagers dormaient. Fort heureusement, tout le monde a eu le temps de sortir. Des plaintes vont être déposées. Beaucoup dénoncent déjà la vétusté du car. À 13h19, c'est l'heure de la chronique santé de Daniel Messager. Les Français ne dorment pas assez. Vous nous le disiez en titre, Daniel. Et une nouvelle étude de Santé publique France confirme cela. Nous sommes passés en dessous des 7 heures de sommeil. Et c'est un seuil important. Hein.
Oui, c'est le nombre d'heures minimales dont a besoin l'organisme pour récupérer. Et la moyenne est donc passée à 6h42, une vingtaine de minutes qui manque. Ce n'est pas rien.
Alors, les explications, Daniel, il y en a plusieurs, j'imagine.
Alors, d'abord, on peut parler du travail de nuit qui a augmenté considérablement, plus de 20%. printemps, 1 million de personnes en plus. Ces travailleurs de nuit ne dorment en moyenne que 6 heures et font donc partie des courts dormeurs. C'est plus d'un tiers des Français. Le temps passé dans les transports, c'est un constat, 2 à 3 heures parfois par jour, et c'est du temps amputé à la durée de sommeil. Et trop de temps sur les écrans, une confirmation chez les adultes comme chez les ados. Alors pour le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, on fait comme si le sommeil n'était plus indispensable.
Le sommeil est considéré comme une variable d'ajustement sur laquelle on peut rogner à la fois le soir mais aussi le matin. Et ça va de pair avec une activité qui est vraiment importante chez les gens, les écrans, mais aussi les possibilités que l'on a actuellement de communiquer avec le monde entier. Et in fine, ça fait un temps de sommeil qui est beaucoup trop court. Avec des risques importants en termes cardiovasculaires notamment, car on a constaté que les gens qui dormaient peu étaient plus obèses. Et puis vous avez aussi des risques qui sont liés à la baisse de l'immunité. Quand on dort pas assez, on va avoir des défenses cellulaires qui sont beaucoup moins importantes pour les infections, mais aussi même pour certains cancers, notamment hormonodépendants. Mais vous pouvez aussi être somnolent, et la somnolence au volant notamment, c'est quand même la première des causes d'accidents mortels en France.
Alors Daniel Messager, est-ce que ce déclin du sommeil est une fatalité ?
Eh bien, il y a des domaines sur lesquels on peut intervenir, alors même s'il faut se faire un petit peu violence.
Avoir un rythme régulier dans le coucher, bien sûr, mais un rythme régulier aussi dans le lever, c'est-à-dire d'éviter les écarts, notamment le week-end, pour être dans un respect à la fois du rythme et de la durée de son sommeil. Le sommeil aussi, ça doit se dérouler dans une atmosphère qui permet de protéger le sommeil. Donc, fermer les volets, mettre des rideaux, faire attention au LED des lumières quand il y en a dans la chambre. Bien sûr, ne pas consulter son ordinateur. Avec une grande règle, dès qu'on est au lit, on se coupe de tous les appareils électroniques et son téléphone, on le met uniquement en mode avion si vraiment on veut avoir une fonction réveil le matin, dans une atmosphère calme, isolée le plus possible du reste des stimulations.
Voilà, vous avez bien compris, Bruno. Et il y a encore plein d'autres enseignements.
J'ai bien vu votre doigt menaçant.
Tout à fait. Dans cette étude, d'autres enseignements. Par exemple, Bruno, si vous devez traverser bientôt une grosse période de travail où vous dormirez moins, eh bien, allez vite vous coucher après le journal, bien sûr, pour stocker, car on peut faire des réserves et c'est grâce à l'élasticité du sommeil.
Et cette étude de Santé publique France, on en retrouve les détails sur franceinter.fr. Merci, Daniel Messager. L'épidémie de rougeole fait des dégâts dans le Var, à Saint-Tropez en particulier. Dernière manifestation en date. 15 enfants malades, quasiment tous dans la même école. Particularité que l'on a soumis au docteur Christine Hortmann de l'Agence régionale de santé. Les trois quarts des enfants n'étaient pas vaccinés et le quart restant n'avait reçu qu'une dose.
Oui, c'est tout à fait surprenant qu'il y ait encore autant d'enfants non vaccinés alors que chacun aujourd'hui revendique la santé. Et nous sommes dans une société où on a un accès aux soins très facile et contre la rougeole, il faut quand même être conscient qu'on n'a pas de traitement. C'est à l'air anodin, mais en fait, c'est une maladie grave. En particulier, chez tout petit, c'est très grave. Donc, il faut aussi les protéger en vaccinant autour parce que c'est ça qui va faire une barrière contre le virus. Et puis même pour les adultes parce qu'en fait, c'est un virus qui peut attaquer n'importe quel organe, les poumons, le foie, et donc pour lequel on n'a quand même pas de traitement, comme pour tous les virus.
Un propos recueilli par Sophie Gletin. Boeing dans la tourmente après le crash de l'appareil d'Ethiopian Airlines. Boeing 737 MAX 2 crash en moins de 6 mois pour ce type d'appareil. Et du coup, les pays qui demandent à ce qu'il reste cloué au sol se multiplient. Ce matin, Singapour et l'Australie. Et aux États-Unis aussi, Boeing est sous pression, Philippe Lefebvre.
Chez Boeing, on peut dire que c'est panique à bord. Le constructeur, sorte de vache sacrée de l'industrie américaine, est désormais mis en demeure par la FAA, le régulateur des transports aériens américains, de mettre à jour tous les logiciels de commande antidécrochage de tous les 737 MAX en service. Actuellement, il y en a 370 à travers le monde. Ensuite, à Renton, près de Seattle, là où sont assemblés les 737, on va devoir régler définitivement le problème et surtout rassurer les clients qui désormais doutent, à l'image des pilotes d'Argentina Aero qui refuse désormais de piloter cet avion. Et si Boeing a tant tardé, rappelons qu'il y avait déjà eu une alerte juste après le crash de l'avion de Lion Air en Indonésie en octobre dernier, et qu'à l'époque, le constructeur avait déjà promis de modifier le système de stabilisation, eh bien c'est parce que l'avion se vend très bien. C'est même celui qui génère le plus de bénéfices chez Boeing, et c'est peut-être ce qui explique que les autorités américaines ont certes tapé du poing sur la table, mais n'ont pas décidé de clouer pour le moment les avions au sol.
Le président de Renault ne sera plus également président de Nissan, concession de Jean-Dominique Sénard, le PDG du Losange, à son partenaire japonais. La page Carlos Ghosn est donc tournée, mais dans le mécano capitalistique, on ne change rien. Renault garde la part belle. Direction l'Espagne, à présent, Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Il vous faut une idée de l'importance du lieu. Eh bien, c'est une fois et demie le Vatican en superficie. Il vous faut une idée de l'importance du moment. C'était ce matin le premier entraînement de Zidane, de retour à la tête du Real, pour la plus grande joie de ce monsieur, supporter depuis l'enfance, aujourd'hui retraité, il s'appelle Antonio.
C'est un phénomène et un mec très sérieux, très sensible. Tout le monde ici est très heureux de son retour. Il faut qu'il remette de l'ordre, qu'il arrête les conflits entre les joueurs.
Zidane, le retour du héros avec ce titre, Marca, le quotidien sportif ardent soutien du club, a consacré pas moins de 9 pages ce matin à l'événement. Pablo Polo est rédacteur en chef à Marca. Le Real a tout gagné avec Zizou, première époque, 3 Ligues des Champions d'affilée en particulier. Mais en ce moment, c'est la dèche. Alors Zidane doit renouveler l'équipe. Est-ce qu'il pourrait shipper Mbappé ou d'autres stars à Paris ?
Prendre Kylian ou Neymar du PSG, c'est un miracle. C'est un travail à long terme. Je pense que Zidane, dans sa tête, il va essayer de chercher un autre groupe, de prendre des joueurs jeunes ou avec de l'expérience et chercher une étape un peu différente, ouais, avec d'autres visages. Mais évidemment, c'est un défi parce que Zidane de 3 Champions League, c'est terminé. Tout le monde doit être conscient que le Real ne va pas remporter la Champions League parce que Zidane, il est au Real. Mais je pense que pour lui, c'est important de se montrer beaucoup plus constant, régulier à la Coupe et à la Liga et voir à notre équipe différente.
Le supporter et le rédacteur en chef, les deux étaient au micro de Guillaume Batin, l'envoyé spécial de France Inter au centre d'entraînement du Real. Real qui, comme le PSG, va regarder les autres jouer la Ligue des Champions jusqu'à la fin de la saison, notamment l'Atlético Madrid sur la pelouse de la Juventus de Turin, la Juve. Et ce soir, Madrid qui avait gagné 2-0 à l'aller, le club d'Antoine Griezmann, à l'affiche encore ce soir Manchester City, Schalke 0-4. Demain, ce sera Barcelone Lyon, dernier club français encore en lice en Ligue des Champions. Le PSG, lui, doit se contenter du championnat de France. 19h ce soir, match en retard de la 18e journée à Dijon. Avant la météo, cette information de dernière minute, les projets de taxes contre GAFA, les géants de l'Internet en Europe, eh bien Washington menace de saisir l'Organisation mondiale du commerce à propos de ces taxes qu'un responsable américain à Washington juge discriminatoires.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Sébastien Léas.
En liaison avec la tempête Garrett, située au nord des îles Britanniques, une perturbation gagne l'Hexagone cet après-midi, s'étendant entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Pas-de-Calais. Et les pluies sont même parfois bien soutenues. Ces pluies vont ensuite se décaler vers l'est, touchant l'Île-de-France, le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire et le Nord avant la fin de journée. Au passage des pluies, le vent se renforce nettement avec de puissantes rafales pouvant même dépasser les 100 km/h près du littoral. Le Finistère retrouve un temps plus variable. En revanche, à l'avant de la perturbation, les nuages s'accumulent et deviennent prédominants jusqu'aux Ardennes, au Berry à la Gironde. Plus à l'est et au sud, l'après-midi reste plus agréable avec un ciel partiellement voilé et même un soleil plus présent près de la Méditerranée. Côté température, l'ambiance est plutôt douce pour la saison. Cet après-midi, prévoyez 11 degrés à Caen et Lille, 12 degrés à Brest et Nancy, 13 degrés pour Paris et Dijon et 16 degrés à Lyon, Nîmes, Toulon et Ajaccio. Douceur plus marquée dans le sud-ouest avec 18 degrés pour Bordeaux et 20 degrés à Toulouse.
Avant de céder la parole à Jean Lebrun, un conseil, allez voir sur franceinter.fr parmi les sujets du jour. Cette petite avant-première, le film de l'insoumis François Ruffin, vu par la rédaction de franceinter.fr avant tout le monde. C'est vu par Xavier Demagny et c'est donc sur notre site internet.